Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu déjà vous dire que cette émission est enregistrée le jeudi 31 octobre, donc de fait peut-être qu'il y a eu une invasion extraterrestre ou que le gouvernement Barnier a démissionné pour mettre à la place ceux qui ont gagné entre guillemets les élections législatives, mais on n'est pas au courant. Alors on aurait pu vous parler de communalisme, histoire de conclure nos émissions précédentes avec les interventions de Floréal Romero que nous avions rencontré à la librairie Thuart fin septembre lorsqu'il était venu présenter son livre « Agir ici et maintenant » sur la pensée de Murray Bookchin. Murray Bookchin comme un book et puis en Chine mais sans B-O-O-C, voilà. Loupé. B-O-O-K-C-H-I-N. Et le Murray Bookchin en question était parti sur une idée qui s'appelle l'écologie sociale, une théorie philosophique qui est basée sur l'absence de hiérarchie et avec une déclinaison qui s'appelle le municipalisme libertaire, renommé sur le tard le communalisme. Après avoir fait parler Floréal Romero sur la pensée de Murray Bookchin, après la mise en place du communalisme appelé aussi municipalisme libertaire, et après la possibilité de lier le communalisme et les élections, bah, il est temps de conclure. Alors donnons une dernière fois la parole à Floréal Romero.
Je veux bien croire que les gens qui essayent de faire au niveau de la commune, c'est plus près des gens. Mais n'empêche que c'est quand même les institutions de l'État. Ils ne vont jamais laisser, par ses propres institutions, par exemple, s'attaquer à la propriété privée des moyens de production. C'est impossible. Ça, on va le réussir par la lutte. Et ce sont nos alternatives au niveau social, mais imbriquées avec le politique, avec une vision de futur, avec une vision, un horizon, cette utopie dont je parlais tout à l'heure, qu'on va pouvoir créer un vrai, véritable mouvement qui va toucher tous les aspects de la vie. Parce qu'en fait, quand on parle, nous, d'assemblée communaliste, on va demander à toutes les personnes qui sont impliquées dans tous les domaines de la vie du quartier de venir et de décider ensemble et d'expliquer leurs problèmes, leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau des écoles? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La pédagogie sociale, par exemple, c'est un élément extrêmement intéressant. Parce que c'est basé sur des choses concrètes. Les enfants baignent dans le concret. Hein, on ne leur apprend rien. Ils participent et ils se forment eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est valable pour les enfants et c'est valable pour les adultes aussi. Je pense que vraiment, personne qui va nous sauver de cette situation. Ce sont nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'intelligence collective qu'on peut développer. Mais pour ça, il faut essayer de se débarrasser des égos dans le dialogue constant. Constant et soutenu, quoi. Pour arriver justement à développer cette intelligence collective contre l'intelligence artificielle qui menace notre intelligence. Tout à l'heure, j'ai parlé d'intelligence, mais il y avait une intelligence qui m'a vraiment frappé. L'intelligence du gazon, par exemple. Un gazon intelligent. J'ai vu ça sur une affiche. J'étais là, bon sang, on est venu réduire au gazon. C'est ça à quoi ce qu'on veut réduire. C'est important de bien comprendre qu'on est dans une phase de robotisation des individus qui enlève le sens. On perd le sens de la vie. Pourquoi 30 000 suicidés au Japon? Les enfants, de plus en plus, il y a des taux de suicide plus importants. La drogue, consommation de drogue, c'est l'évasion totale parce que la vie n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens parce qu'il n'y a pas d'horizon, parce qu'il n'y a pas de faire en commun. Le faire en commun, c'est ce qui développe vraiment nos capacités de construction créative. Et la créativité, c'est quelque chose qui va contre la pulsion de mort. La pulsion de vie, c'est la seule qui existe. La pulsion de mort, ça n'existe pas. Et il s'est trompé, Freud. Vers 4-5 ans, l'être humain commence à prendre conscience de cette finitude. Et alors, il a besoin de la transcender. Et cette transcendance, elle ne peut, c'est ce que dit Eric Fromm, elle ne peut se faire dans deux conditions, la création et la destruction. Et si la création, on n'est pas capable d'apporter la créativité, des propositions créatives aux enfants, ils vont se tourner vers la destruction. C'est ce qui se passe avec le phénomène Columbine, par exemple, aux États-Unis. Où les jeunes de 15 ans tirent sur les autres, détruisent, sans aucun sens. On peut dire qu'existe ce phénomène intégriste musulman, se fonde là-dessus aussi, il n'y a aucun sens. Quoi. C'est-à-dire, c'est destruction pour détruire. Quoi. On apporte, je pense, des éléments que peu de propositions politiques très mesurées, très peu ambitieuses ont actuellement. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de creuser dans ce sens. On n'a pas de solution. Personne, j'ai pas moi qui va donner de réponse. Je donne des jalons, des éléments sur lesquels on peut réfléchir et on peut développer, je pense, ensemble.
Ensemble, voilà donc le maître mot, et non pas au service de. Oui, ça change un peu. Les militants politiques souhaitant seulement soutenir un candidat et non pas des idées gaspillent finalement leur enthousiasme. Pauvres jeunes avec Macron. Le jour où des mercantis auront l'idée de monter une structure s'intitulant « Les jeunes avec Murray Bookchin », il ne faudra pas oublier de leur rappeler que l'ego est bien sûr le pire des ennemis. Donc il amène à se croire au-dessus de qui que ce soit. Savoir qu'on est quelqu'un n'implique pas de péter plus haut que son cul. L'individu n'est pas forcément individualiste. Et c'est par l'action collective d'individus, justement, mais d'individus conscients de leur existence, que nous pourrons nous débarrasser de la démagogie des professionnels de la politique. Alors, c'est pas demain, mais que vivent les jalons. On aurait pu vous parler de la santé. Mardi 29, entre 14 et 16 heures, les syndicats FOCGT et CGT de la santé se sont invités place de la République pour alerter les populations sur l'électrochoc nécessaire pour sauver l'hôpital public. Voilà ce qui était indiqué sur le tract. Et notre système de santé et d'action sociale également. Peu réceptifs, les Pékins moyens ne se sont pas beaucoup arrêtés, malgré la pertinence de l'interpellation, à l'heure où le projet de loi de financement de la sécurité sociale passe devant les députés. À noter qu'un préavis de grève nationale a été déposé pour la période du 4 novembre au 21 décembre par la fonction publique hospitalière. Je dis ça, je dis rien. Et si vous voulez, vous pouvez également participer en signant une pétition qui s'intitule « Sauvons l'hôpital public et notre système de santé et d'action sociale » que vous pouvez trouver sur change.org et dans la petite barre de recherche en haut, eh bien vous tapez Prigent, P-R-I-G-E-N-T, et là vous tomberez sur Jérémy Prigent de Montreuil qui est à l'initiative de cette pétition qui a recueilli pour l'instant 33 000 signatures. C'est le moment d'aller mettre son petit paraphe pour dire qu'on a envie de continuer à avoir un service public hospitalier de qualité. On aurait pu également vous parler du plan vélo. Mais qu'est-ce que cela est-il donc ? Depuis 2023, le ministère de l'écologie a mis en place un plan quinquennal intitulé le plan vélo et marche 2023-2027. Il suivait un plan qui s'appelait vélo et je ne sais plus quoi, mais pas vélo et marche, 2018-2022. Sur le site officiel du ministère de l'écologie, on peut lire « En septembre 2022, la première ministre a lancé le plan vélo et marche 2023-2027 afin de redoubler d'efforts et définitivement inscrire le vélo dans le quotidien de tous les Français. Il prend la suite du plan vélo et mobilité active, voilà, de 2018. Le plan vélo et marche 2023-2027 poursuit trois ambitions principales. C'est toujours sur le site. Attention, premièrement, rendre le vélo accessible à tous et toutes dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Deux, faire du vélo et de la marche une alternative attractive à la voiture individuelle pour les déplacements de proximité et combinée au transport collectif pour les déplacements de plus longue distance. Et trois, faire du vélo un levier pour notre économie en accompagnant les acteurs français de la filière. Eh oui, l'économie n'est jamais très très loin quand ce sont des libéraux qui font n'importe quel plan. Ce plan a donc permis de faire des annonces tonitruantes. Hein. Ouais, 2 milliards d'investissements par exemple. Waouh, des articles dans les grands médias nationaux, dans la presse écrite. Ça a permis de verdir l'action des libéraux qui nous gouvernent. Bon, ils nous gouvernent parce qu'on se laisse faire. Eh bien, à la lecture du projet de loi de finances pour 2025, il apparaît qu'il n'y a pas de sous pour le plan vélo. Non, ça y est, les 2 milliards, envolé. Lors des travaux des députés de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les amendements visant à rétablir les crédits sur le plan vélo, eh bien, ont été rejetés. Et même le parti raciste qui prône la préférence nationale, à savoir le Rassemblement national, a proposé de supprimer les 100 millions d'euros qui restent dans le budget 2025 pour le plan vélo. En l'occurrence, c'est pour payer des trucs qui ont été faits en 2024 et qui, pour l'instant, n'ont pas encore été payés. Eh bien d'abord, celui, il y a quelqu'un du RN qui a produit un amendement. Il s'appelle Timothée Houssin. Le Timothée Houssin en question est mis en examen actuellement pour recel de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du FN à l'Assemblée européenne. Puisque l'actuel député de l'Eure, oui, Timothée Houssin est devenu député de l'Eure en 2022, eh bien il était à l'époque, quand on parle là, on parle de 2014-2015, eh bien il était à l'époque l'assistant parlementaire de Nicolas Bay, qui était une valeur montante du FN, qui est parti avec Zemmour et qui là est avec Marion Maréchal Le Pen, qui a enlevé Le Pen parce que ça la fout mal, mais elle s'appelle quand même Marion Maréchal Le Pen. Dans son amendement, Timothée Houssin propose de supprimer les 100 millions du plan vélo, puisque la part des déplacements en vélo a été multipliée par 2 entre 2019 et 2022. Ouais, on est passé de 2,7 à 5%. Et de conclure, je cite l'amendement, « Ainsi, la dynamique enclenchée est suffisamment solide pour justifier la suppression du plan vélo dans un contexte de restrictions budgétaires qui apporterait une économie de 100 millions d'euros. Encore une belle preuve que le bien-être de la population occupe peu les nationalistes qui préfèrent forcément les énergies fossiles qui vont nous permettre de nous rendre sur notre lieu d'exploitation. À ce propos, à lire aux éditions La Fabrique, fascisme fossile, l'extrême droite, l'énergie, le climat, c'était écrit en 2020 par le collectif Zetkin et ça se trouve à la médiathèque de Le Mans. On aurait pu vous parler de violences policières. Cette semaine, deux policiers étaient jugés pour avoir tabassé un Péruvien bourré, mis en garde à vue pour outrage à un gendarme. Ça se passait au début des Jeux Olympiques. Alors, ils n'avaient pas vu les policiers qu'ils étaient sous les caméras de surveillance dans les locaux du commissariat du 5e arrondissement. Ils s'en sont donnés à cœur joie et ils ont surtout baratiné. Bon, bah, du sursis. Du sursis est demandé par le procureur, donnant encore l'idée qu'il est possible pour des flics de se défouler physiquement sur un détenu, et l'interdiction d'exercer une fonction dans la police nationale. C'est quand même le minimum. Une interdiction définitive. À noter que l'un des flics, l'un des deux là quand même, avait fait un faux témoignage en portant plainte contre le gardé à vue pour des faits de violence contre lui. Eh, y a pas de petit profit, hein, on le sait bien. C'est un moyen, cette histoire d'outrage et de violence, pour gagner, pour arrondir un petit peu les fins de mois. Il y en a plein les tribunaux de ce genre de personnage qui fait croire, après avoir tabassé quelqu'un, que c'est lui qui a souffert. Deux autres flics étaient également sur le banc des accusés pour avoir couvert leurs camarades en racontant les mêmes mensonges. Combien de PV bidonnés ? Eh ben, on ne le saura jamais. Résultat des courses en janvier pour le délibérer. Cette semaine, dans le terme de violence policière, on apprend également que le parquet de Paris requiert le renvoi devant le tribunal des trois flics qui s'étaient permis d'écraser Cédric Chouvia, un livreur à scooter un peu trop pressé. Le fait qu'il se débattent parce qu'il étouffait n'a pas empêché les trois forces de l'ordre de continuer à l'écraser et finalement de le tuer. Du coup, force est restée à la loi. Ouais, ils sont renvoyés devant un tribunal sous l'inculpation d'homicide involontaire. Donc, quand des policiers écrasent quelqu'un et qu'ils font en sorte qu'il ne bouge plus, ils le font pas exprès. On pourrait malheureusement continuer cette rubrique à l'infini avec, par exemple, des arrestations arbitraires, comme à Bordeaux le 21 octobre à l'encontre d'un cycliste. Faut dire qu'il était noir. À noter le collectif Désarmons-les qu'on trouve sur les internets et le bouquin Défaire la police aux éditions Divergence pour en savoir un peu plus sur comment se débarrasser de cette police et peut-être voir autrement pour gérer les conflits divers et variés. On aurait pu également continuer à vous parler d'un écureuil qui s'appelle toujours le chat et qui est toujours calé dans un arbre de l'avenue Bollé. C'est depuis mercredi 23 octobre. En tout cas, il y est toujours le jeudi 31 octobre au moment où nous enregistrons cette émission. Pourquoi il est là-bas ? Ben pour éviter l'abattage de tous les arbres de l'avenue. Et donc, vous pouvez vous rendre juste à côté de l'arrêt de bus Flore, sur l'avenue Bollé, bien sûr, pour entrer en contact avec la personne en question. Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi des gens se battent pour sauver des arbres, eh bien, allez sur agir.greenvoice.fr, agir.greenvoice.fr, et vous cherchez dans le moteur de recherche, enfin dans la barre de recherche, avenue Bollé, arbre, avenue Bollé, et vous devriez pouvoir trouver. Mais finalement, on a préféré vous parler de psychiatrie. Le 16 septembre 2024, dans Ouest France, paraissait un entretien avec Céline Lagré, la directrice générale de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale, qui a sa structure principale à Allonne. Elle était interrogée par la presse écrite locale à propos d'un rapport de la Haute Autorité de Santé paru cet été. Ce rapport est issu d'une visite des soignants qui ont pour but de certifier la qualité des soins. Le PSM d'Allonne est carrément en rouge. Il a obtenu la note D. La pire. Pourquoi? Comment? Eh bien, si on lit l'article du 16 septembre et Céline Lagrée, je cite donc l'article, ce n'est pas un audit sur la gestion ou la gouvernance, ça ne concerne que la qualité des soins. Donc, ben, la gestion c'est bon, la gouvernance, en clair, la direction c'est bon, par contre, les pratiques des soignants, le sous-texte n'a pas trop plu à ceux qui ont pu lire l'article et qui travaillent à l'EPSM. Alors, pour en savoir plus, c'est parce que le West France ne l'a pas fait, à la suite d'un communiqué de presse de la CGT et de FO, les syndicats représentés à l'EPSM, nous avons pris le parti de connaître l'avis des personnels à travers leurs représentants. C'est pourquoi nous avons rencontré Audrey Hautecoeur, infirmière et représentante des personnels, une élue encartée à la CGT.
Mi-septembre, on a appris qu'un rapport avait été fait par la Haute Autorité de Santé et qui donnait une très mauvaise note à l'EPSM d'Allonne, en l'occurrence pour mauvaise qualité des soins. La note, c'est D. Comment vous avez pris ça, vous, les personnels ?
Alors, on n'est pas complètement surpris par cette non-certification, puisqu'on a la pire note possible. La note D, ça veut dire qu'on n'est pas certifié par la Haute Autorité de Santé. On n'est pas du tout surpris, puisqu'on voit bien, et on le dénonce depuis plusieurs années, que ça se dégrade de plus en plus, et en termes de conditions de travail pour les collègues, et surtout en termes de prise en charge de nos patients.
Ah, non-certification, est-ce que ça veut dire que le PSM n'est pas habilité à recevoir des patients ?
Alors, si on n'était plus habilité à recevoir des patients, on serait fermé. Mais on n'est pas loin de ça, quand même. On est menacé, clairement menacé de fermeture. Il repasse d'ici un an, à peu près. Il va falloir qu'on améliore cette note. Sinon, effectivement, on est sur la sellette. Ça veut dire soit qu'on est mis sous tutelle d'un autre établissement, a priori le CH du Mans, ou le CHU d'Angers éventuellement, enfin ça reste des hypothèses, hein. Soit on est englué dans le CH et on devient un pôle du centre hospitalier du Mans.
Alors la certification, oui, elle est à repasser dans les 2 ans, alors le rapport daterait de mai, donc ça ferait dans les 18 mois à partir de maintenant. Une des conséquences, c'est la perte enveloppe qualité des soins, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne sais pas si le PSM avait beaucoup beaucoup d'argent, là ça fait une enveloppe en moins.
On est sur un mode de financement qui est un peu à l'équilibre, enfin équilibré là à peu près. On a relativement les enveloppes qu'on demande pour des projets particuliers. C'est surtout ça. Ces enveloppes-là, elles sont importantes. L'enveloppe qualité des soins, elle est moindre, mais l'ARS, l'Agence régionale de santé, a menacé effectivement que même pour les projets, on puisse être non financé.
Donc, peut-être une mise sous tutelle, mais aussi des conséquences financières. Nous voilà dans le pire. Mais puisque le rapport de la Haute Autorité de Santé sert justement à pointer du doigt des dysfonctionnements, le constat devrait servir à trouver des solutions aux problèmes. Mais d'ailleurs, quels sont-ils les problèmes ? On écoute à nouveau Audrey, représentante des personnels de l'EPSM.
Alors, quelles sont les causes de cette non-certification ?
On peut en donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas par où commencer. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui dysfonctionnent à l'EPSM. Ce qui nous paraît majeur, parce qu'après, il y a la certification avec des critères un peu particuliers. La gestion de la douleur, est-ce que le courrier de sortie est bien envoyé au médecin traitant ? Est-ce qu'on utilise assez de solutions hydroalcooliques ? Est-ce que ceci... Il y a des choses un peu basiques et ce n'est pas ce qui nous passionne non plus. Par contre, sur les droits des patients... là, il y a vraiment quelque chose qui va mal, et c'est là-dessus qu'il faut, à notre avis en tout cas, mettre le paquet.
Notamment, il est dit qu'à propos de leur droit d'aller et venir, les patients ont des difficultés, puisque une partie des locaux serait fermée à des moments où ils devraient pouvoir sortir. Qu'est-ce qui se passe ?
Tous les patients en hospitalisation libre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraints d'être hospitalisés par le préfet ou par un membre de leur famille et des médecins, doivent pouvoir aller venir à leur guise. Or, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un service d'admission générale qui a ses portes ouvertes. C'est-à-dire que dans les autres services, les patients doivent demander l'autorisation aux soignants pour sortir, pour aller à la cafétéria, pour aller se promener dans le parc, etc. Ce qui pose quand même question de la place du soignant, qui n'est pas là pour ouvrir, fermer des portes. Il y a un côté un peu carcéral là-dedans qui pose problème. Et c'est à l'encontre du droit des patients qui ont le droit d'entrer, sortir. Comme à l'hôpital du Mans, si on est hospitalisé pour une appendicite, bon, ça va être compliqué d'aller dehors, mais on peut aller et venir.
Justement, à ce propos, vous êtes en attente du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ah, il vient d'arriver. Ok, on me le montre. Donc, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui était venu visiter le PSM en décembre 2023. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui sont pointées du doigt par ce contrôleur ?
Il y a des choses qui se rejoignent avec ce qu'en dit la certification, mais eux se centrent uniquement sur le droit des patients et leur prise en charge. Mais on a 49 recommandations à mettre en place absolument, autour de la prévention de la violence, autour de la liberté d'aller et venir, autour de vraiment la prise en charge concrète des patients. Donc il y a des choses qui se recoupent entre ces deux rapports.
Pour revenir au rapport de la Haute Autorité de Santé, puisqu'elle se plaignait de cette histoire d'aller et venir, les patients qui ne peuvent pas circuler librement, comment vous, les personnels, vous expliqueriez ce défaut de liberté ?
Ça s'est dégradé d'année en année. Plus ça va, moins on a de personnel, moins on a de médecins, moins on a d'espace de réflexion autour des prises en charge des patients, de leur comportement, de pourquoi ils agissent comme ci ou comme ça. Plus on s'enferme et plus on ferme les portes. On est sur un fonctionnement beaucoup plus carcéral, entre guillemets, que soignant aujourd'hui. C'est une perte de connaissances cliniques des soignants, clairement. On sort de l'école aujourd'hui, l'école d'infirmière par exemple, on ne sait pas grand-chose sur les maladies mentales, parce que ça, c'est vraiment très allégé le programme. On a fait beaucoup moins de stages qu'avant. Il n'y a plus la spécificité, la spécialité psychiatrie pour les infirmiers. Les médecins sont beaucoup moins présents. On ne fonctionne plus comme avant autour d'une équipe pluridisciplinaire avec les psychologues qui passent, avec le médecin qui passe, avec des temps de synthèse et de réflexion sur ce que vit le patient. On court après le temps, c'est-à-dire qu'on fait vite, on ouvre les portes, on ferme les portes, justement, ça prend du temps. On est pris dans des choses très administratives, faut taper sur l'ordinateur à chaque fois qu'on fait quelque chose. On est pris dans des papiers à remplir, non plus finir, et on a moins le temps d'être auprès du patient, de dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui vous arrive, parce que c'est ça ce qui est au centre de notre métier. Et ça s'est étiolé petit à petit. On soigne plus correctement. Et donc on ferme les portes parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur qu'ils s'en aillent, parce qu'on veut maintenir une forme de sécurité absolument à tout prix, au lieu de mettre le soin devant à tout prix.
Donc fermer les portes, ça sert à éviter la fuite de certains patients, mais ce sont des patients qui n'ont pas d'obligation à être internés, donc ils peuvent pourquoi pas s'en aller.
Tous les patients sont mélangés, ceux qui sont là contre leur gré, ceux qui sont là et qui sont d'accord, tout le monde est mélangé. Après, c'est la responsabilité des soignants de veiller sur eux. C'est-à-dire quelqu'un qui fugue, nous on appelle ça une fugue, qui va se faire du mal, ça va être notre responsabilité juridique, mais surtout morale. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pas fait, quoi ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Voilà. Et ça prend le pas sur tout le reste. Moi, il y a quelques années, j'ai travaillé dans un service d'admission. Nous n'avions que des patients sous contrainte, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix d'être là. Le service était ouvert. Il était aussi suffisamment bien fichu pour qu'on ait vu un petit peu sur ce qui se passe dehors, pour qu'on soit à la fois dehors et dedans. C'était très vitré, enfin, etc. C'était aussi assez... il y avait un peu de nature aussi autour. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans les services qui sont eux-mêmes déjà architecturalement très fermés. Et ce service-là, on avait 25 patients hospitalisés alors qu'ils ne le souhaitaient pas. On n'avait pas beaucoup plus de fugues qu'aujourd'hui dans des services fermés, quoi. C'est le lien au patient qui fait qu'il comprend qu'il a besoin d'être là. C'est des fois un travail de plusieurs semaines, plusieurs mois même. Mais le but, c'est quand même de créer un lien pour que le patient accepte les soins. C'est quand même notre objectif.
Dans le rapport qui donc empêche la certification de l'EPSM, il est reproché aussi aux soignants le fait qu'il n'y ait pas d'amélioration après des incidents et après justement des retours sur incidents où normalement on cherche à améliorer les choses et là il n'y aurait pas d'amélioration.
L'établissement a manqué d'espace de réflexion autour de ces événements graves. Il y a eu, semble-t-il, des retours d'expérience. Nous, syndicalement, on n'est pas associés, représentants du personnel. On est très peu associés à ce genre de retours sur expérience. C'est dommage parce que ça pourrait être intéressant. Il y a eu des choses très graves qui se sont passées et on n'a rien amélioré. Voilà, je ne sais pas quoi en dire, c'est malheureux.
Parce que quand on parle des soignants, dans le rapport, c'est l'ensemble de la communauté soignante, c'est-à-dire que ça soit les infirmiers, que ça soit les médecins, ou, etc. Donc de fait, c'est vrai que dans ce rapport, on ne sait pas très bien parfois à qui s'adresse la recommandation. Il est noté aussi que les médicaments devraient être gérés autrement, ne pas être donnés d'une manière un peu collective dans la salle à manger, mais aux patients un par un dans leur chambre. Quelle est la difficulté ?
La difficulté, c'est qu'on n'est pas un service de médecine ou de chirurgie classique où les patients mangent dans leur chambre, parce que chez nous, tout l'intérêt, c'est qu'ils soient régulièrement, en tout cas, sur des temps collectifs, parce que c'est sur ces temps collectifs aussi qu'on travaille des choses. Donc forcément, l'organisation des repas, elle se fait en salle à manger. Ceci dit, les locaux n'ont pas été pensés pour avoir un espace un peu dédié pour donner les médicaments. Ces médicaments, il faut les prendre en mangeant, ou juste avant, ou juste après, vraiment, mais l'idéal étant de les prendre en mangeant pour éviter certains effets secondaires. Donc on est un peu coincé. Là, s'organisent un peu dans chaque service comme ils peuvent les collègues, parce qu'on leur a dit c'est pas bien, faut arrêter de faire ça. Donc chaque équipe se pose la question, mais ça c'est plutôt pas mal, de comment nous on pourrait faire. Donc certains se mettent dans une petite salle qui est annexe, et puis petit à petit, ça, c'est en train de s'organiser. C'est important, c'est la question de la confidentialité des soins, le secret médical. Il ne faudrait pas revenir en arrière, se coller à un fonctionnement de médecine ou de chirurgie, par exemple, où les patients mangeraient en chambre. On y perdrait beaucoup dans la relation aux patients, dans l'évaluation de comment ils se comportent ensemble, dans plein de choses, dans l'observation et la surveillance des repas aussi.
À propos des soignants, toujours dans le rapport, on apprend dans le West France du 16 septembre 2024, avec une interview de la directrice Céline Lagret, qu'il y aurait un problème de pyjama. Lequel ?
Dans certains services, les patients qui arrivent sont systématiquement mis en pyjama. C'est le cas aussi parfois aux urgences où on a un certain nombre de patients qui attendent une place à l'EPSM pendant des jours et des jours. Pour ceux que les urgentistes considèrent comme à risque de fugue, ils sont mis en pyjama. C'est-à-dire qu'on les met en pyjama bleu, les pyjamas de l'hôpital, pour avoir une meilleure surveillance entre guillemets. C'est un côté un petit peu infantilisant, ou rabaissant, je ne sais pas comment le vivent certains patients. C'est un truc un peu archaïque hein, quand même. C'est quelque chose qu'on faisait effectivement il y a 20 ans, il y a 30 ans, quelque chose qui pose question. Alors effectivement, ça permet pour nous de vérifier qu'il n'y a rien de dangereux dans les poches, ça permet de les voir sortir quand ils fuguent, mais en même temps, c'est très déshumanisant.
Alors pourquoi continuer à les mettre en pyjama ?
Parce que parfois c'est une consigne médicale. Donc on applique, nous, les soignants en tout cas, on n'a pas le choix. Parfois, c'est des choses un peu culturelles, habituelles, par facilité. Voilà. C'est quelque chose qui est systématique quand même, parce qu'il faut quand même préciser, en chambre de soins intensifs. On a des chambres d'isolement, entre guillemets, soit pour protéger le patient de lui-même, soit pour protéger les autres d'un patient qui est en crise vraiment grave et qui serait agressif. On peut le mettre sur prescription, bien sûr, en chambre de soins intensifs. C'est encore une autre question, ça, l'isolement. Pour ces patients-là, avec une surveillance très particulière, il y a une mise en pyjama, mais pour veiller à ce qu'effectivement, ils n'aient pas d'affaires dangereuses sur eux. Mais la question de la mise en pyjama, il faut qu'on en parle, en fait. Mais comme tout un tas d'autres choses qui sont dans le rapport, c'est intéressant d'en parler collectivement, en fait, parce que ça se travaille, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Si on enlève cette mise en pyjama, entre guillemets, comment on gère la question des affaires, la question de la sécurité, la question de la fugue, voilà.
Et oui, finalement, les choses s'expliquent si on prend le temps d'écouter, mais il faudrait du dialogue. Alors, ça veut pas dire, si ça s'explique, ça veut pas dire que tout est acceptable. Changer certaines pratiques habituelles ou culturelles, comme le dit Audrey, va prendre du temps et du temps. Du temps et du temps. Du temps de concertation, notamment. Dans ce volet, nous nous sommes attachés à noter ce qui était dans le rapport vis-à-vis des soignants. La prochaine fois, nous verrons la partie concernant la gouvernance, nonobstant ce que nous disait Céline Lagret dans l'article du West France. Il y a aussi un petit volet gouvernance. « On n'a presque plus le temps, alors on vous dit quand même... Allez, au revoir. Mm-hmm.